Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor. Web.
Qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles, autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Lucas, étudiant en physique à l'UNS et qui a un TDAH. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Alors, d'après le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la caractéristique essentielle du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH, c'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement. L'inattention se manifeste sur le plan comportemental dans le TDAH par une distractibilité, un manque de persévérance, du mal à soutenir son attention et le fait d'être désorganisé, et n'est pas dû à une attitude de défi ni à un manque de compréhension. Donc là, ce que je viens de lire, c'est la définition médicale, la définition scientifique. Comment tu décrirais le TDAH avec tes mots ?
C'est vraiment pas une question à laquelle j'ai déjà réfléchi. Moi, je dirais que... je suis quelqu'un de très scientifique et rationnel, ça se voit par mon parcours, mais donc j'aurais vraiment tendance à m'accrocher assez radicalement à la définition des médecins, parce que c'est ce qui caractérise... c'est issu de la plupart des travaux, et ça caractérise le plus, je pense, notre ressenti. Moi, j'aurais tendance à beaucoup plus insister sur le comportement vraiment impulsionnel qui est lié au TDAH, parce que quand on est atteint de TDAH, c'est vraiment... moi, ce qui me vient à l'esprit en premier, enfin, quand je prends en tout cas mon propre ressenti, c'est vraiment le côté... on a un stimuli qui nous vient à l'esprit et on a une réponse qui est immédiate et qui n'admet pas de réaction interne sociologique de l'individu, c'est-à-dire qu'on va vraiment réagir impulsivement à ce qui apparaît sans pouvoir se contrôler la plupart du temps. Et donc ça laisse lieu à beaucoup de perceptions et de ressentis très forts, de comportements assez intenses vis-à-vis des autres. Pour ce qui est de la caractérisation en général, je pense qu'elle est quand même assez... c'est quand même un trouble qui a été assez étudié, qui est assez précis dans sa définition.
Et une question que je pose à chaque fois dans le podcast, c'est comment tu te définis ? Est-ce que tu as l'impression que le terme de handicap te correspond ? Est-ce que le terme de maladie te correspond mieux ? Celui de différence, en quel mot te correspondrait le mieux ?
Je ne suis pas très à l'aise avec la notion de handicap dans le sens où je pense que ça a pu être handicapant quand j'étais plus jeune, mais ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc actuellement, je ne définirais pas ça comme un handicap. J'aime pas non plus le mot de trouble alors que c'est le premier mot de la définition parce que pour moi un trouble c'est, enfin je le vis vraiment comme quelque chose qui doit se corriger et qui est vraiment presque de l'ordre du soin, un trouble, et donc je trouve pas que ce soit une manière de le caractériser. La maladie c'est un peu plus faible que ça, mais c'est pas non plus une bonne façon de le décrire à mon avis. Donc je pense que le mieux effectivement c'est une particularité ou une différence, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est effectivement pas partagé par la plupart des gens, mais c'est pas quelque chose qui va venir foncièrement gêner la du moins dans la grande majorité des cas, surtout avec l'âge, c'est plus quelque chose qui gêne tant que ça la vie quotidienne. C'est vraiment des aménagements particuliers à faire sur soi, mais pas des gros aménagements qu'on peut en avoir avec d'autres handicaps ou d'autres maladies, par exemple.
Et du coup, je voulais un peu revenir sur ton parcours diagnostique, en tout cas ce qu'on peut appeler comme ça. Concrètement, à quel âge est-ce que tu as eu un diagnostic ?
Moi, j'ai été diagnostiqué, alors je pense pas avoir l'âge précis, mais j'étais quand même assez jeune, je pense autour de 7-8 ans à peu près. C'est souvent à cet âge-là que sont diagnostiqués les TDAH, parce qu'il faut, il faut que la caractérisation, le diagnostic soit fait jeune. C'est souvent quelque chose qui se fait de l'ordre d'abord du ressenti vis-à-vis du comportement extérieur de l'enfant vis-à-vis de son entourage. Et c'est après qu'on va voir un médecin pour diagnostic. Bon, moi, ça s'est fait assez jeune parce que mes parents avaient eu des échos vis-à-vis des enseignants comme quoi c'était un parcours... Enfin, dans mon comportement vis-à-vis des enfants, c'était quelque chose qui était assez inattendu et assez étrange. Donc, c'est eux qui, en premier lieu, ont j'allais dire sonné l'alerte, mais c'est pas vraiment le terme approprié, c'est pas vraiment une alerte, mais qui ont averti mes parents de ce comportement. Et c'est après qu'ils ont décidé de voir s'il y avait un diagnostic à établir, même si au début ils ont été très réticents parce que justement ils avaient peur que ça, il me semble qu'ils me l'ont raconté beaucoup plus tard, mais ils avaient peur que ça m'affecte en tant qu'individu de savoir, de pouvoir mettre des mots là-dessus et d'avoir une caractéristique qui justement est considérée comme un trouble, et ils avaient peur que ça gêne mon comportement de me faire encore plus me sentir différent par les mots et par la perception de ce que c'est et pas juste par mon propre ressenti, un peu comme une amplification.
Et du coup, quand tu dis que c'est du coup les gens du milieu scolaire qui ont été les premières personnes à capter qu'il y avait quelque chose d'un peu différent, tu dis que tu avais un comportement inattendu, étrange avec les autres enfants. Est-ce que tu saurais en dire plus? Je sais pas si tu as des souvenirs ou si tu as des retours de tes parents, de ce qu'ont pu leur dire justement le personnel enseignant. Est-ce que c'était... Enfin ouais, est-ce que tu saurais... Tu as des exemples un peu précis de...
Alors j'ai deux exemples en tête qui sont vraiment incrustés dans ma mémoire. C'était quand j'étais en... J'avais 4 ans, je pense, quand j'étais en petite section. J'étais incapable de tenir sur un banc assis avec les autres enfants. Dès la moindre question, agitation, ou comme ça, j'étais obligé de me lever et d'agir, de faire quelque chose. En fait, j'étais incapable de contrôler comme ce qu'on apprend normalement à l'école. Et ça a continué à se manifester tout au long de ma maternelle. Donc, quand j'étais en moyenne section, j'étais dans une classe où il y avait des moyennes sections et des grandes sections qui étaient mixées. Et j'avais plusieurs camarades de classe qui étaient, eux, en grande section et moi en moyenne section. Et j'étais incapable de rester à la table avec les autres enfants de moyenne section, malgré les injonctions de l'enseignant, malgré le cadre social, etc. Je n'étais pas capable, c'était vraiment un comportement vraiment impulsionnel, de rester là où je devais être. Et j'étais obligé de réagir à ce que me commandaient mes actions. Et donc ça a vraiment été, ça a fait partie des éléments qui ont été déclencheurs vis-à-vis des enseignants, parce que c'était des processus qui se répétaient et qui souffraient du fait que même après plusieurs avertissements, ça ne voulait pas se calmer.
Du coup, justement, donc tu racontes que c'est les enseignants et enseignantes qui ont prévenu tes parents, entre guillemets. Est-ce que tu sais si pour tes parents ça a été une révélation? Est-ce que c'est des comportements que tu pouvais aussi avoir à la maison?
J'ai pas vraiment de souvenir de comportements comme ça qui se passaient à la maison quand j'étais chez moi. Du moins, mes parents ne m'en ont jamais vraiment parlé. Je pense que le cadre social qui était à la maison, qui était en comité beaucoup plus restreint, avait tendance plus à me calmer que ce qu'il pouvait y avoir en classe avec beaucoup plus d'individus. Donc, je pense qu'ils n'ont pas été choqués. Au sens où ça les avait, ils sont pas tombés des nues en apprenant ça et en se disant qu'il y avait quelque chose, mais je pense qu'ils s'étaient pas rendu compte de ce que c'était vraiment. Ils devaient s'attendre à ce que ce soit simplement un comportement qui passerait avec l'âge, peut-être plus accentué par rapport à d'autres enfants, notamment à mon grand frère, mais je pense pas qu'ils avaient conscience de ça et que ça se manifestait de la même ampleur à la maison.
Et toi, du coup, à ce moment-là, je ne sais pas si tu arrives à te rappeler, est-ce que tu sens que tu es différent? Justement, c'est quand tu dis que tu ne pouvais pas t'empêcher de te lever en classe et d'être actif, en fait, tu comprends que tu es différent et que les autres enfants ne fonctionnent pas de la même manière?
En réalité, oui. C'est-à-dire que en ayant autant d'échantillons de personnes autour de toi qui n'ont pas cette différence, on se rend très vite compte que son comportement n'est pas... celui qui est attendu, d'autant plus qu'avec les remarques des enseignants, etc., on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment, pour revenir à la définition même, c'est tellement impulsionnel qu'en fait, on n'arrive pas à se corriger, on n'arrive pas à lutter contre ça. Et, Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, pour qui ça pourrait faire un énorme sentiment de malaise. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je pense que j'ai eu de la chance d'avoir déjà des parents qui étaient assez attentionnés, des enseignants qui ont, malgré leurs remarques, été assez compréhensifs, surtout après que mon diagnostic ait été posé, du moins pour ceux que j'ai eu dans les enseignants que j'ai eu dans la foulée, et mes camarades de l'époque qui j'avais des amis sur qui me reposer, qui à l'époque n'avaient pas de problème particulier vis-à-vis de ça. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose de différent, mais pas au point que ça gêne mon développement à cet âge-là. Du moins, je n'ai pas de souvenir de réels problèmes vis-à-vis de ça. C'était plus de l'ordre de... On comprend qu'il y a quelque chose, mais comme c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise, on n'a pas forcément au début tendance à vouloir... À vouloir s'adapter ou à vouloir changer.
Et toujours par rapport au diagnostic, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu expliquais juste avant que tes parents avaient peur que le fait d'avoir un diagnostic puisse t'affecter. Mais pour autant, tu as quand même eu un diagnostic. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui ont entamé la démarche? Est-ce que c'est vraiment le corps enseignant qui les a bien encouragés pour faire la démarche? Enfin, comment ça s'est passé?
Non, c'est. Je pense que on n'en a jamais vraiment reparlé en fait depuis ce moment-là. Mais de ce que je me souviens, c'est mes parents qui, au bout d'un moment, après mûre réflexion, se sont eux-mêmes tournés vers un pédopsychiatre pour faire ce diagnostic et pour pouvoir établir les critères. Et donc j'avais 7-8 ans je pense, et c'est vraiment eux qui ont entamé cette démarche après s'être dit qu'il fallait savoir si c'était le cas ou pas, si c'était vraiment ça ou si ça venait d'une toute autre cause. En fait, ils se sont rendus presque à la raison de se dire qu'il valait mieux savoir s'il fallait soigner quelque chose ou s'il fallait corriger quelque chose, il valait mieux savoir précisément la nature du problème. Je veux mettre des gros guillemets à problème parce que c'est pas le mot réel à employer, mais ils ont voulu vraiment, ils avaient à cœur de m'aider et de se rendre compte que ce comportement, avec l'âge qui ne se diminuait pas, ils avaient peur que ça, en partie ils avaient peur du diagnostic et en même temps ils avaient peur que ça m'affecte négativement, et donc ils se sont vraiment dit que dans mon propre intérêt c'était ce qu'il fallait faire.
Et pour revenir sur le moment du diagnostic, vraiment le jour où le diagnostic a été posé, est-ce que tu comprends en tant qu'enfant, donc à 7-8 ans t'es quand même, enfin tu restes encore un enfant, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire quand le diagnostic de TDAH est posé?
Alors je pense que je suis presque persuadé que je ne l'ai pas su le jour même où j'ai été diagnostiqué. Je pense que mes parents, des souvenirs que j'en ai, il y a vraiment deux événements distincts entre le jour où j'étais dans la... qui est vraiment assez marquant, où j'étais dans la salle avec le médecin, et le jour où mes parents m'ont plus ou moins expliqué ce que ça voulait dire, en étant beaucoup moins précis que la définition officielle. Ce qu'on avait tendance à... Est-ce que pendant longtemps, on m'a simplement considéré comme de l'hyperactivité? Souvent comme ça qu'on le résume à l'hyperactivité et pas au côté déficit de l'attention qui va avec, enfin qui va avec ou pas d'ailleurs, puisque c'est vraiment avec ou sans hyperactivité. Moi on l'a beaucoup restreint à ça, donc en tant qu'enfant je comprenais que effectivement je commençais à prendre plus conscience de moi et à comprendre que effectivement j'étais beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus actif que beaucoup d'enfants autour de moi, justement cette réaction très impulsionnelle à chaque chose qui m'arrivait. Le trouble de l'attention, il était également marqué, mais moins que cette hyperactivité. Et non, je pense que je l'ai compris, j'ai vraiment réalisé la portée de ce que ça voulait dire un peu plus tard, plus autour de mon entrée au collège, que vraiment en étant enfant.
Et parce que du coup, c'est le moment où tes parents t'expliquent un peu ce que t'as, c'est justement au moment de l'entrée au collège?
Non, c'était pas tout à fait au moment du diagnostic du médecin, mais c'était pas très longtemps après. Je pense que j'étais encore dans la même classe, en gros. Et non, ils n'ont pas attendu très longtemps, mais je pense qu'eux aussi avaient besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça et de se poser, de trouver les mots les plus simples pour l'expliquer à un enfant, ce qui n'est nécessairement pas toujours évident.
Justement, est-ce que tu te rappelles comment ils t'ont expliqué?
Non, vraiment pas du tout. Non, vraiment pas, j'ai pas de souvenir, à part le mot d'hyperactivité qui est vraiment resté coincé dans ma tête depuis ce moment-là. J'ai pas de souvenir des autres mots qu'ils ont employés, de comment est-ce qu'ils ont essayé de décrire la réalité, mais non, pas du tout.
Et tout à l'heure, tu disais que généralement, les enfants qui ont un TDAH sont diagnostiqués autour de cet âge-là, donc 7-8 ans. Est-ce que tu penses que toi, tu aurais pu être diagnostiqué plus tôt?
Je pense... Enfin, je ne sais pas exactement comment se passe de manière idéale un diagnostic de TDAH, mais je pense qu'il faut vraiment être, s'assurer que le comportement qu'on considère ne disparaît pas avec l'âge, comme c'est le cas de certains enfants qui, dont les parents pensent très jeunes qu'ils ont un TDAH, mais qui finalement juste s'estompent avec les années. La plupart des diagnostics se font assez jeunes, mais suffisamment tard pour qu'on puisse être certain que c'est un problème persistant qui nécessite d'avoir un diagnostic. Donc je ne pense pas pouvoir que j'aurais pu être diagnostiqué plus tôt. Ça aurait pu même être plus tard, à vrai dire, pour être encore plus certain, mais non, je pense pas.
Et donc, au moment où tu refais ce diagnostic-là, même si tu es encore un enfant, est-ce que tu en parles autour de toi? Est-ce que tu en parles à tes amis en disant « Ah, en fait, je suis chez le médecin, j'ai fait des tests. »
Non, je pense qu'à l'époque, j'ai vraiment... C'était l'époque où je pense que j'avais encore l'envie en tant qu'enfant d'être insouciant comme beaucoup d'enfants et de juste pas me poser de questions ni sur moi, ni sur pas grand-chose autour. Et non, j'en ai pas parlé à mes amis. Je pense, alors si je me souviens bien, il me semble que mes parents en ont parlé aux parents de mes amis. Notamment quand j'allais chez eux ou qu'on se retrouvait entre nous en tant qu'enfants pour être certain, pour pouvoir prendre des dispositions en cas de problème, ce genre de choses. Mais je ne pense pas l'avoir expliqué moi-même à mes amis avant, beaucoup plus tardivement, même le temps en fait, de comprendre soi-même les implications de ce que ça représente.
Et quand tu dis que tes parents ont a priori expliqué aux parents de tes amis un peu ce que c'était, parce que c'est pas forcément connu par tout le monde. Est-ce que tu sais si ça t'en parlait à d'autres personnes autour, enfin, si ça a été quelque chose sur lequel ils étaient ok de parler, ou si c'était plutôt quelque chose de type, enfin, un peu tabou, un peu secret?
Je pense pas que c'était tabou, je pense qu'ils avaient encore une fois à cœur d'être certains que pour me protéger, il fallait que la plupart des gens, du moins avec qui j'interagissais, soient à minima au courant de ce que c'était et de comment réagir. Je pense qu'ils l'ont vraiment fait dans cet intérêt-là, donc je pense pas qu'il y ait eu tabou vis-à-vis de ça. Et eux-mêmes, en ayant eu du recul sur la façon dont ils m'ont éduqué, je pense qu'ils n'avaient pas forcément de problème, ce qui n'était pas mon cas, mais sûrement qu'on y reviendra. Mais vis-à-vis de moi, comment j'ai ressenti après l'hyperactivité et comment est-ce que j'ai osé en parler aux autres, je pense qu'il y a vraiment ce décalage entre moi et mes parents, ce qu'eux ils ressentent et comment est-ce qu'ils veulent me protéger, et ce que moi je ressens vis-à-vis de mon comportement avec les autres enfants.
Parce que là, du coup, tu dis que quand tes parents en parlent aux autres, c'est aussi pour leur expliquer comment réagir. Parce que du coup, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que tu peux avoir des comportements qui sont tellement impulsifs, tellement actifs, qu'en face, il faut qu'il y ait une réaction?
Il ne faut pas forcément qu'il y ait une réaction, mais je sais que quand j'étais petit et qu'il y avait des comportements ou des actions qui m'impactaient très fortement et que ma réponse impulsionnelle était vraiment virulente, ça pouvait m'arriver d'avoir des comportements vis-à-vis des enfants et même vis-à-vis de moi-même qui pouvaient être dangereux. Ça m'est déjà arrivé de me blesser à cause de ces réactions impulsionnelles. Donc il ne faut pas forcément il faut plus être conscient qu'il peut y avoir un problème pour pouvoir intervenir si on se blesse ou quelque chose comme ça, mais pas forcément venir interrompre l'enfant pendant sa crise parce que beaucoup de médecins considèrent que ça pourrait ça peut nuire parfois à la façon dont l'enfant se construit, de venir être stoppé dans cet accès. Alors c'est quelque chose qui se régule plus avec l'âge, on apprend par soi-même en fait à se calmer, mais quand on est enfant, c'est vrai que c'est très difficile de s'auto-contrôler et il vaut mieux plutôt agir en prévention et après en soins plutôt qu'en réaction immédiate à ce qui se passe.
Et je voulais revenir toujours sur la question du diagnostic. Du coup, donc, à 7-8 ans, t'en parles pas forcément, mais à quel moment tu commences à en parler autour de toi? Est-ce que c'est justement quand tu prends conscience de ce que ça veut dire concrètement, donc genre début collège? Est-ce que c'est plus tard?
Alors, je pense que j'ai commencé à vraiment réaliser et à vraiment en parler quand je me suis quand je suis passé des amis et des connaissances que j'avais en primaire à des nouveaux amis au collège qui eux ne me connaissaient pas dans la phase que j'avais quand j'étais plus petit et qui du coup se posaient des questions par rapport à certains comportements que j'avais qui étaient toujours très impulsionnels, que ce soit en classe ou que ce soit en société avec les autres enfants. Et je pense que les premiers mots que moi j'ai réussi à poser dessus et sur lesquels j'ai dû me mettre à réfléchir et que j'ai dû expliquer aux autres enfants, c'était vraiment à cette époque-là du collège quand j'ai transitionné en fait avec des nouvelles connaissances à qui il fallait venir expliquer ça et il n'y avait plus mes parents pour faire ça.
Et justement, comment tu leur expliques?
Alors, à l'époque, je pense que j'ai pas encore conscience vraiment de que c'est quelque chose de si différent des autres que ça. Je pense que j'avais tendance à très fortement l'atténuer, à dire que c'était quelque chose d'un peu différent, mais qu'on vivait avec et je pense que j'essaie de me cacher un petit peu ça, ou du moins de pas vouloir trop en parler. J'étais assez évasif sur le sujet parce qu'il fallait l'expliquer pour que les gens ne parce que les gens posaient des questions, qu'ils étaient interloqués, mais c'était pas quelque chose sur lequel en fait. Plus on en parlait, plus il y avait cette différence, et plus ça me ramenait moi à ce côté-là, et moi j'avais envie d'en parler, plus j'avais envie d'être évasif, et je pense aussi que les autres enfants ne comprenaient pas forcément, et je peux enfin, difficile de leur en vouloir, mais ne comprenaient pas, et du coup leur comportement en réaction ne pouvait pas être forcément très approprié ou très lucide vis-à-vis de ça, ce qui est beaucoup moins le cas quand on commence à grandir et que les gens sont plus conscients de ce côté-là. Et donc, je pense que je minimisais la portée, j'étais très évasif sur la question.
Donc ça, c'est quand tu es en gros au collège, avec cette idée du fait qu'effectivement, voilà, si tu en parles, les gens vont comprendre que tu es différent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas? Et est-ce que ça a été le cas entre ton collège et aujourd'hui?
Alors, je pense que le fait d'avoir rencontré des nouvelles personnes au collège qui ne comprenaient pas ça m'a fait déjà poser des questions sur moi-même, m'a fait réfléchir à la chose. Ce qui fait que j'ai pu en poser des mots et en même temps, avec l'âge, le trouble en lui-même commençait à s'atténuer sans qu'il disparaisse vraiment jamais, mais il commence à se contrôler et avec des efforts de moi-même qui essayais en grande partie de venir atténuer ce phénomène-là pour justement essayer de gommer cette différence et éviter ces questions, éviter de sembler différent aux yeux des autres enfants. Au moment où ça disparaît pas vraiment, à partir du lycée, de la prépa, il y avait encore des comportements qui faisaient que les personnes que je rencontrais parfois me posaient des questions. À partir du moment où j'avais suffisamment de recul sur ce que c'était, comprendre que ça faisait partie de moi, que c'était pas quelque chose qui pouvait disparaître et qu'il fallait vivre avec. J'ai eu beaucoup moins de mal à en parler, à discuter et à expliquer aux autres qu'est-ce que ça impliquait, je veux dire pourquoi je suis comme ça. Il n'y a pas de pourquoi, mais qu'est-ce qui cause ces comportements? Et aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucun souci à parler de ça. Quand on m'a demandé encore ici à l'ENS quand on m'a posé ce genre de questions, je réponds tout naturellement et souvent la discussion s'arrête presque immédiatement dès le moment où on évoque ça. Les gens comprennent et ne posent pas forcément de regard malveillant vis-à-vis de ça. Simplement, ils comprennent et le prennent en compte pour la suite.
Et donc là, enfin, si je comprends bien ce que tu dis, il y a ce truc-là où même aujourd'hui à l'ONS, où les gens peuvent te poser des questions, tu réponds sans problème. Mais est-ce que, sans même qu'on te pose de questions, c'est quelque chose dont tu parles en disant, bah voilà, salut, moi je m'appelle Lucas, j'ai un TDAH. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avant même qu'on te pose des questions?
Alors, je pense que je me présente pas comme ça quand je me présente aux gens. C'est pas la première chose que je leur dis. Par contre, quand j'ai les personnes desquelles je suis proche à l'ENS, ça m'est arrivé, oui, après certains comportements, quand ça se manifeste encore de manière assez impulsive et que j'ai pas eu l'occasion de leur en parler avant, ça m'arrive maintenant, comparé à avant où j'esquivais vraiment la question, ça m'arrive maintenant de me justifier entre guillemets ou du moins d'expliquer pour que les gens soient pas désarçonnés vis-à-vis de ça. Le fait d'avoir vraiment le recul maintenant nécessaire sur ces questions et d'avoir compris ce que ça impliquait, également le fait que ce soit atténué comparé à ce que ça pouvait être avant, ça aide à ne plus avoir presque honte d'en parler et vraiment assumer d'être comme ça, de cette vision de se dire il faut vivre avec, et au-delà de vivre avec, c'est pas un comportement qui est vraiment malveillant à l'égard d'autrui, et donc on peut complètement s'en accommoder.
Je voulais revenir au moment où tu as ton diagnostic et puis les années qui suivent. J'imagine que tes parents parlent aux professeurs et au corps enseignant. Comment est-ce que c'est pris ? Est-ce que ces profs comprennent tout de suite et du coup acceptent ? Est-ce qu'ils ont plus de mal ? Est-ce qu'ils vont minimiser ce que tu vis ? Enfin, comment ça se passe ?
Je pense que mes parents n'ont... Après mon diagnostic, les enseignants de l'école primaire étaient plus ou moins au courant de ce qui se passait parce que justement la proximité avec le corps enseignant était plus forte, donc ils comprenaient ce qui se passait. Forcément, vis-à-vis de l'ambiance de la classe, ils étaient obligés d'intervenir souvent ou de faire en sorte de rétablir un peu, de faire en sorte que je sois plus calme pour l'ambiance de la classe, ce qui était normal. Je dirais pas que c'était une question de minimisation, mais c'était une question plutôt de que c'est difficile à gérer pour un enseignant qui a un élève de ce type sur 35 élèves différents. Donc ils essayaient pas de le minimiser, mais ils comprenaient, comme ils étaient au courant, ils comprenaient ce que c'était, ils savaient comment réagir. Donc je me suis jamais senti mal vis-à-vis de ça, jamais reçu vraiment de brimade vis-à-vis de ce comportement. On me le disait régulièrement pour me, plutôt je pense dans la volonté de que je pense qu'ils avaient dans la tête que à force ça allait réussir également à m'atténuer le fait de me faire prendre conscience de ce qui se passait, parce qu'encore une fois, vu que c'est impulsionnel, on se rend pas forcément compte de ce que c'est, de l'ampleur que ça a. Je pense que le fait qu'ils se sont dit qu'en me le répétant, en me le disant, ça allait m'aider à faire un auto-effort sur moi-même et à corriger ça. À partir du collège, il y a eu moins de contact avec le corps enseignant. C'était plus pendant les réunions parents-prof. Souvent, mes parents recevaient des remarques des enseignants que moi-même, je n'avais pas osé dire à mes parents quand mes profs me les faisaient en classe, parce que c'était l'époque où je commençais à prendre conscience de ce que c'était. Et donc ils leur expliquaient, c'était souvent bien pris, souvent atténué, mais d'une année sur l'autre, ça reprenait nécessairement. Et c'est vraiment qu'à partir du lycée où ça a commencé à réellement s'estomper, à être quasiment beaucoup, beaucoup moins visible à l'échelle sociale, du moins dans le public, avec les personnes qui ne sont pas dans mon cercle proche, que là, il y a plus, j'ai plus ressenti le besoin d'aller en parler, que les personnes s'adaptent, parce que j'avais pas forcément envie de mettre ces personnes-là au courant, que ça me faisait... J'étais encore à moitié de la période de « je comprends pas trop ce que c'est, est-ce que j'ai envie de changer ou pas ?» Donc j'avais plus forcément envie d'en parler à des personnes qui faisaient plus figure d'autorité que des personnes qui étaient dans mon cercle proche.
Donc là, on a parlé des profs et du corps enseignant. Comment ça se passe avec les élèves ? Est-ce qu'une fois que tu as le diagnostic, les élèves de primaire, que ça change quelque chose pour eux ou elles, et même plutôt en vrai au collège et au lycée, est-ce que les gens, même si tu poses forcément le nom et que tu expliques pas, j'imagine que ces personnes ont pu percevoir qu'il y avait une différence, un truc un peu une particularité, est-ce que ça a créé du harcèlement, de l'isolement, ou est-ce que au contraire les gens t'ont accepté comme tu étais?
Les amis que j'ai eu quand j'étais au collège étaient pour la plupart issus des amis que j'avais déjà en primaire, qui du coup eux étaient au courant de ce diagnostic et de comment faire en sorte de le traiter. Au collège, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, comme moi-même, j'arrivais pas forcément à en parler ni à vouloir en parler, comme c'était quelque chose que j'essayais déjà de cacher plus ou moins sans y parvenir avec beaucoup de succès. Les personnes autour de moi, la plupart des personnes que je ne connaissais pas, le prenaient assez bizarrement, voyaient ça vraiment comme quelque chose de bizarre et pas comme simplement une différence. Donc j'ai pas vraiment... j'ai eu effectivement pas mal de rejets à cause de ça quand j'étais au collège, parce que les personnes qui faisaient partie des groupes les plus conformes, je dirais, avaient souvent ce type de prétexte. Alors, je me suis fait des amis, des nouveaux amis qui étaient comme moi. J'ai rencontré un autre enfant qui était également atteint de TDAH quand j'étais au collège. Donc ça ce parcours ensemble pendant les quelques années, ça a aussi joué sur la façon dont j'ai moi-même appréhendé ce type de comportement. Pour la plupart, non, c'était vraiment des amis qui étaient déjà au courant et qui, eux, l'ayant vécu au primaire, où c'est beaucoup moins, où on a beaucoup plus d'insouciance et on se moque un peu plus des choses, avaient simplement pris acte et s'étaient adaptés à ça et n'avaient plus grand-chose à faire. À partir du lycée, j'ai redécouvert beaucoup plus de connaissances, de familiarité, parce que le fait que ça s'estompe permettait d'avoir des relations plus normales. Et une fois que j'en parlais aux gens aussi, ils étaient, ça les gênait pas vraiment. Et on était retourné sur ce côté presque « Ah d'accord, très bien, et on passe à autre chose et on n'en tient pas compte. »
Est-ce que tu saurais dire l'impact du TDAH sur ta scolarité en termes de notes, en termes de réussite à des examens, etc.
Ce qui est très paradoxal, c'est que le TDAH se caractérise quand même par le trouble de déficit de l'attention. Et paradoxalement, comparé à beaucoup d'enfants, à l'école, je n'avais pas ce trouble de déficit de l'attention. Quand j'étais concentré sur mes notes, en fait, je pense qu'en réaction au fait d'avoir des troubles de l'attention dans la vie générale, quand j'étais en cours, cette ambiance scolaire avec une figure tutélaire un petit peu de l'enseignant, faisait que ça créait un petit peu un espace clos qui, même si ça générait parfois des réactions impulsionnelles, faisait que j'arrivais à me plus ou moins me concentrer, et les facilités que j'avais dans la scolarité compensaient les problèmes de concentration qui pouvaient parfois arriver. Donc ça n'a pas vraiment, comparé à beaucoup d'enfants, affecté mes résultats scolaires. D'ailleurs, au début, c'est aussi pour ça que mes parents et les enseignants étaient dubitatifs vis-à-vis du trouble, parce que même si j'avais ce côté hyperactif, je n'avais pas, à l'école du moins, ce côté trouble de l'attention qui est caractéristique d'une chute des résultats scolaires, d'un mal-être à l'école. Et je pense que vraiment, presque en réaction à ça, au contraire, je me suis presque parfois enfermé dans les résultats scolaires pour lutter contre cette différence. Et ça a fait que j'ai pas vraiment ressenti de mal-être à l'école et de baisse des résultats ou quelque chose de ce style.
Du coup, je voulais aussi revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est que, de ce que j'ai cru comprendre, ça s'est atténué avec l'âge. Est-ce que tu saurais un peu dire pourquoi ? Parce que tu avais l'air de parler de travail sur toi-même, mais est-ce que c'est vraiment ce travail-là sur toi-même qui a atténué le trouble et qui a fait que c'était moins visible et du coup moins handicapant ? Est-ce que c'est juste que c'est un trouble où, avec l'âge, ça devient moins handicapant ? Enfin, est-ce que tu saurais dire un peu ?
Alors le TDAH, ça se caractérise en effet par le fait qu'avec l'âge, c'est censé s'atténuer. C'est pour ça que la plupart des diagnostics sont censés être faits jeunes, pour être certain que la persistance correspondait bien à du TDAH. Je pense que, comme tout le monde, ça, l'évolution dans la vie et le parcours a fait que ça s'est atténué, mais effectivement, il y a eu, pendant quasiment tout mon collège, j'ai vraiment eu une grosse partie où, au moment où j'ai commencé à prendre conscience que les gens pouvaient avoir du rejet vis-à-vis de ce trouble, je me suis vraiment dit, sachant que c'était une différence qui, a priori, du moins je me le disais à l'époque, était solvable, je pensais qu'on pouvait s'en défaire, que ça pouvait disparaître. Donc j'ai vraiment fait un gros effort sur moi-même. À chacune de mes réactions, je me prenais sur moi et en fait, plus j'avais conscience du fait que la réaction arrivait et que j'avais un comportement qui, vis-à-vis de la société, pouvait être problématique et pouvait être considéré comme différent, ça me faisait direct en réaction. L'impulsion n'était pas contrôlable, mais la réaction à l'impulsion, c'était devenu quelque chose de systématique, de me dire c'est pas normal, il faut pas faire ça, il faut se calmer. Et donc j'étais vraiment parti de ce point de vue-là et de ce biais de me dire, si à chaque fois tu te dis il faut pas le faire, à force tu vas réussir à le calmer avant même que ça arrive et ça va disparaître et tu vas réussir à te soulager. Et en fait, c'était vraiment dans une idée de, en faisant ça, je vais gommer cette différence et les gens arrêteront de me rejeter et je pourrai vraiment m'intégrer pleinement dans la société. Et c'était vraiment en réaction à cette défiance de certaines personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai voulu faire ce travail sur moi-même. Et d'ailleurs, ce travail, je l'ai fait vraiment seul. Enfin, j'ai jamais parlé à mes parents du fait que je cherchais en fait à faire disparaître ce trouble, parce que c'était vraiment quelque chose dont j'avais développé un sentiment de honte pendant cette période du collège, qui n'existait pas avant et qui n'a plus existé après.
Et du coup, justement, par rapport à ces réactions que tu peux avoir, par rapport à ces moments d'impulsivité et tout cet effort que tu as fait sur toi-même, j'imagine que c'est pas quelque chose de naturel puisque c'est un effort. Ça n'a pas fini par t'épuiser ?
Je pense que ça aurait dû, mais que le fait d'être en parallèle hyperactif, ça... En tout cas, chez moi, ça se caractérise vraiment par une énergie qui est assez débordante et qui est responsable de cette impulsivité, qui ne se contrôle pas nécessairement, mais qui, de fait, il fallait faire un effort pour pouvoir... du moins, je pensais qu'il fallait faire un effort pour pouvoir corriger cette hyperactivité, mais c'était plus, je dirais, ou du moins comme je le pensais à l'époque, pour revenir à une certaine forme, un certain niveau naturel de réaction et d'énergie par rapport à ce qui est commun en société. Donc c'était un effort, ça m'a beaucoup... c'était moins un effort en fait physique qu'un effort, du moins je veux dire en termes d'énergie, c'était plus un effort psychologique quand je n'arrivais pas et que je ne voyais pas de progrès dans cette canalisation que j'essayais invariablement de faire réussir. Moins j'y arrivais et plus ça me stressait et plus ça faisait revenir cette hyperactivité. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été en partie aidé par les gens qui étaient autour de moi, que ce soit mes parents ou que ce soit mes amis, qui, comme eux, comprenaient quand j'avais ces réactions-là, savaient que ça me faisait mal, mais pas de voir leur réaction, parce qu'ils n'avaient pas de réaction malveillante à mon égard, mais vraiment, j'avais un mal contre moi-même de ne pas réussir à faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui me définit beaucoup et qui est lié à cette hyperactivité. Le fait de ne pas réussir quelque chose, c'est devenu une source d'angoisse liée à cet autocontrôle que j'essayais de développer de manière permanente quand j'étais au collège. Alors finalement, ça a réussi ça a marché en partie, je pense, lié au fait qu'avec l'âge, ça a diminué. Donc le fait que c'était déjà sur une pente descendante et le fait de chercher à le contrôler, ça a aidé. Donc finalement, en y arrivant, je me suis senti beaucoup plus soulagé à partir du moment où je me suis rendu compte que les personnes ne venaient plus forcément me poser des questions parce qu'elles se rendaient compte. En fait, il y avait, ou du moins pas dans la sphère publique. Vis-à-vis de mon TDAH, j'ai vraiment développé deux notions différentes qui sont cette sphère publique et cette sphère privée. C'est-à-dire qu'il m'arrive encore dans la sphère privée, quand je suis avec des gens que je connais, que j'ai plus cette forme d'autocontrôle qui est devenue, que j'avais intériorisé, des fois ce vernis lâche, ce qui fait que cette hyperactivité remonte, moins forte qu'avant, mais elle remonte quand même. Alors que dans la sphère publique, c'est vraiment devenu quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du contrôle, qui elle est toujours intériorisée et qui a fait que j'avais plus honte et que du coup les personnes que je rencontrais dans cette sphère publique ne me posaient plus de questions vis-à-vis de ça, ce qui me faisait me dire que j'avais presque réussi et qui a réussi à stabiliser un petit peu mon comportement de TDAH.
Et du coup tu parles beaucoup de tout cet effort que tu as fait toi-même, mais est-ce qu'en plus de ça et en plus du fait de parler et de communiquer avec les gens autour de toi, donc tes parents, tes amis proches, etc., est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place, des aménagements, que ce soit au niveau scolaire, donc par exemple, je sais pas, des tiers-temps pour les épreuves, etc., ou même en dehors du scolaire, est-ce que tu allais voir des psys, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour t'accompagner ?
Alors, formellement non, enfin du moins pas ni que ce soit au niveau scolaire, ni en termes de rendez-vous psy, etc. Après mon diagnostic, j'ai plus jamais revu de psychiatre pour parler de ça. Et encore une fois, c'est vraiment lié à cette idée que j'avais envie de m'autocontrôler, j'avais pas envie d'en parler aux gens, j'avais pas envie que les gens sachent, qu'ils le remarquent, presque qu'ils me prennent en pitié vis-à-vis de ça, parce que j'avais ce sentiment un peu de honte. Et donc je refusais qu'il y ait des aménagements qui puissent être faits, surtout qu'à l'époque, c'était pas forcément un des troubles qui était le mieux reconnu. C'est beaucoup plus le cas aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je me souviens que un de mes enseignants de collège avait proposé ça à mes parents et que j'avais été catégorisé sur le fait que je ne voulais pas être différent des autres enfants. Et c'était vraiment ce côté. Je refusais cette différence. Je refusais d'être traité pas comme les autres parce que j'avais l'impression que ça allait... que ça allait encore plus m'écarter du reste de la société et que l'effort que je fournissais pour pouvoir m'intégrer allait être voué à l'échec, allait être jeté à la poubelle par cette simple acceptation de la différence par le corps extérieur, en fait, outre que moi.
Et est-ce que ce truc-là de refuser de l'aide, de refuser des aménagements, etc., c'est quelque chose que tu as pu regretter à certains moments, après coup?
Non, je pense pas. J'ai jamais eu un seul regret par rapport aux décisions que j'ai prises. Enfin, à part le fait d'avoir cherché à faire disparaître volontairement ce TDAH. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me demande si c'était vraiment la solution à faire et qu'est-ce qui aurait été différent, comment est-ce que ça serait manifesté différemment si j'avais pas eu ce sentiment de honte qui s'était développé et que j'avais pas essayé de renier ce TDAH. Des fois, je me pose la question de est-ce qu'il se serait atténué de lui-même dans une moindre proportion. Peut-être que ce serait sûrement plus manifesté aujourd'hui. Mais vis-à-vis de comment j'ai réagi pour venir faire cet effort pour m'intégrer, j'ai pas de regrets parce que je pense encore aujourd'hui que c'était la solution à faire pour pas venir vraiment m'isoler complètement et tomber dans une spirale qui aurait pu être avec des conséquences beaucoup plus graves qui sont liées justement à l'isolement d'un enfant au collège, rejeté complètement de tout corps social et qui en plus de se sentir différent se fait sentir par les autres et ressent qu'il est différent et c'était vraiment cet aspect là que j'essayais de gommer à tout prix. Et de ce côté là non, j'ai pas de regrets.
Toujours par rapport à la question du scolaire, je voulais m'arrêter sur un point qui est la question de l'orientation parce que donc là t'as l'ENS de Lyon mais t'as fait une prépa j'imagine avant. Est-ce qu'à un moment tu te poses la question quand t'es au lycée par exemple et que t'as le bac à passer, que tu dois choisir ton avenir en fait concrètement, est-ce que tu te poses la question de si tu peux faire certaines études, si tu peux accéder à certains métiers? Est-ce que tu te poses la question de s'il y a un frein, est-ce que tu sens un frein?
J'ai jamais vraiment ressenti de frein au niveau de mes études, notamment vis-à-vis de ce qu'on discutait tout à l'heure, que j'ai pas eu ces problèmes de scolaire pendant la période du collège. Et comme à partir du lycée, qui est vraiment le moment où on commence à s'orienter de manière définitive, j'étais déjà dans cette phase de un peu de normalisation, avec beaucoup de guillemets, et de processus d'acceptation et d'avoir réussi à calmer un petit peu cette différence. J'ai pas vraiment ressenti de frein à cette à l'orientation que j'ai pris. Moi, je savais déjà depuis longtemps que de ce que je voulais faire. J'étais vraiment passionné par la physique et par les sciences, et donc c'était vraiment pas quelque chose dont pour lesquels j'ai ressenti un frein. Et au-delà de ça, je pense que si j'avais vraiment ressenti un frein, comme pour le reste, j'aurais vraiment cherché à supprimer cette différence et encore plus accentuer les efforts pour qu'il n'y ait pas de frein. Et je pense que c'est ça, c'est en partie lié à ça, l'absence de problèmes scolaires liés à mon TDAH. C'était vraiment que j'ai toujours cherché à prendre ce contre-pied, de me dire au moment où j'ai accepté cette différence, j'ai cherché à prendre ce contre-pied de je ne veux pas qu'on me voie comme différent, donc je dois tout faire comme un individu qu'on pourrait qualifier de normal en société, et donc je dois m'empêcher que quoi que ce soit interfère avec ce que j'ai envie.
Du coup, ça répond un peu à la question que j'allais te poser juste après, sur la question de est-ce que ça t'a empêché de rêver de certaines choses, est-ce que t'as eu peur que ça t'empêche d'atteindre certains buts, certains rêves?
Souvent, je me suis dit que si ce trouble se manifestait, qu'au bout d'un moment, effectivement, le scolaire venait à pâtir de ce TDAH et que j'arrivais plus à contrôler ce qui se passait et comment j'arrivais à gérer mon comportement scolaire, notamment vis-à-vis du déficit de l'attention. Ça m'a déjà traversé l'esprit de me dire si ça arrivait, j'aurais sûrement été perdu. Est-ce que le fait de se dire ça a joué sur le fait que j'avais vraiment pas envie que ça arrive et donc qu'inconsciemment j'ai encore plus cherché à combler ce principe? C'est possible. fort heureusement, c'est pas arrivé. Je veux dire, j'ai continué la trajectoire scolaire que j'avais. Et donc, j'ai pas complètement. J'ai vraiment jamais abandonné mes rêves et j'ai toujours en fait suivi cette ligne de mire qui était de me dire que si je voulais réussir quelque chose, justement, à cause, je ne voulais pas que cette différence freine n'importe quel objectif que je voulais me fixer et je voulais pas qu'on me laisse penser que j'étais différent et que du coup ça allait m'empêcher de réussir certaines choses.
Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage au sens vraiment large du terme, donc que ce soit littéraire, filmographique, musical, théâtral, un peu tout ce que tu veux, qui soit t'a aidé à accepter la différence, à mieux la vivre, ou simplement une œuvre que tu apprécies et que tu voudrais partager aux auditeurs et auditrices?
Alors, moi, j'ai pas vraiment trouvé dans la littérature ou dans les œuvres, de manière générale, des personnes qui sont aussi atteintes de TDAH. Je pense que c'est pas quelque chose de courant parmi les protagonistes, du moins, c'est jamais caractérisé comme ça. Peut-être qu'on peut avoir des personnages qui sont hyperactifs, mais c'est pas, à mon avis, déjà le sens de la narration. Donc, c'est difficile de se projeter sur ça. Ça m'est jamais arrivé de croiser quelqu'un de ce type-là dans lequel je pourrais m'identifier et dans lequel je pourrais trouver en fait des réponses un petit peu à comment. À comment j'aurais pu traverser cette période. Malgré tout, moi, de manière générale, j'ai vraiment complètement... Je suis vraiment tombé dans la lecture pour venir m'aider dans ce cadre-là parce que, non pas seulement un ouvrage, mais la littérature en général m'a beaucoup aidé à venir m'auto-contrôler parce qu'il y avait vraiment cette forme de routine qui s'installait, de venir toujours faire la même chose. Donc ça permettait de venir combler un petit peu cette hyperactivité. Ça m'occupait dans mes journées, dans mes heures. Ça me faisait faire quelque chose. Et en plus de ça, le fait de devoir se concentrer sur un ouvrage pour pouvoir le lire pendant plusieurs dizaines de minutes d'affilée, ça venait aussi un petit peu contrer ce déficit de l'attention. Donc c'était vraiment dans cette optique de faire quelque chose qui allait venir m'occuper. J'avais besoin en fait en permanence de trouver quelque chose à faire et la lecture, ça a été vraiment un grand soulagement pour moi. Ça m'a beaucoup aidé à me canaliser de ce côté-là. Donc j'ai pas vraiment j'ai pas d'ouvrage en particulier à recommander. Beaucoup de très bons livres, moi je dis beaucoup d'œuvres un peu de fantasy, voilà. Mais j'ai pas de titre en particulier à proposer.
Merci beaucoup Lucas pour avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brenner.